Il est devenu un sujet d'actualité, une nécessité, un élément incontournable. Vous avez sûrement entendu parler des ODD, Objectifs de Développement Durable. D'ailleurs, 193 pays se sont fixés d'atteindre 17 objectifs d'ici 2030. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc est sur cette dynamique à la fois environnementale et économique. Notion qui définit le besoin de transition et de changement dont a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans un monde plus équitable, en bonne santé et en respectant l'environnement. Quel impact géopolitique, stratégique, économique et même social le développement durable a sur notre quotidien et sur l'évolution du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
Le défi 2030 est devenu une initiative internationale visant à réduire de beaucoup les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments. Une démarche qui pousse les architectes à adhérer à ce programme qui établit des cibles de réduction de la consommation énergétique des bâtiments neufs et existants. L'objectif fondamental du défi 2030 est que les bâtiments neufs et rénovés n'utilisent aucun combustible fossile et n'émettent aucun gaz à effet de serre d'ici 2030. Les architectes doivent ainsi posséder les compétences, maîtriser la méthodologie et disposer des outils nécessaires pour concevoir des bâtiments éco-énergétiques. Et ils doivent aussi, par ailleurs, avoir accès à la documentation, à l'information qui aideront les clients à adhérer au défi 2030. Mais quel est le lien entre durabilité et architecture? Comment l'architecte peut-il être déterminant dans le développement durable? Autant de questions que nous allons essayer de répondre avec Mohamed Berada, architecte et fondateur d'Arpio Architect, par ailleurs, professeur d'université à Montréal et à Casablanca. Bonjour à vous, professeur.
Bonjour, M. Tonkara. Comment ça va?
Également. M. Berada, la première question que nous sommes tentés de vous poser, c'est d'abord, que signifie durabilité dans le contexte de l'architecture?
C'est-à-dire, actuellement, nous avons tous remarqué qu'il y a un dérèglement environnemental autour de nous, et je crois qu'on a tous le devoir, chacun dans son domaine, de limiter ce réchauffement climatique. Donc moi, en tant qu'architecte et professionnel du bâtiment, d'ailleurs, nous avons tous remarqué que le bâtiment, le secteur où j'interviens, reste quand même un secteur très énergivore au Maroc. Par exemple, si on considère le bâtiment, souvent on est autour de 25-30% au niveau de, je dirais, de participation au réchauffement climatique.
Tout à fait.
Et ça vient devant l'industrie. Tout le monde met le doigt sur l'industrie et sur le transport, alors que le bâtiment, il est plus énergivore. Donc, à notre niveau architecte, nous devons absolument construire des villes et notre architecture d'une manière intelligente et durable. Et la durabilité n'est pas un choix pour moi, c'est un devoir et c'est un engagement pour un avenir meilleur.
Tout à fait. Et aujourd'hui, professeur, aussi, quand on parle de durabilité et également d'architecture, comment concevoir un bâtiment pour être durable ou éco-énergétique dans votre jargon, comme vous le dites?
Pour pouvoir construire durable, d'abord, il faut comprendre ce que c'est la durabilité, comme vous l'avez posé tout à l'heure, au niveau de l'architecture. Donc, la durabilité au niveau de l'architecture, elle considère que la création des espaces qui répondent aux besoins des utilisateurs soit, je dirais, respecte un peu les besoins actuels et aussi les besoins des générations futures. Je m'explique. C'est-à-dire, cela implique l'utilisation de concepts rigoureux, de conception éco-énergétique de nos villes et de nos espaces spatials et architecturaux. Donc, le choix doit être judicieux par rapport aux matériaux, par rapport aux utilisations efficaces des ressources. Par exemple, quand on conçoit un bâtiment durable, on démarre tout de suite par sa conception. Ça, c'est la base de tout. On ne peut pas concevoir un bâtiment éco-énergétique s'il n'implique pas à la base les paramètres du lieu, l'utilisation de l'ensoleillement, la lumière naturelle, la ventilation et surtout l'orientation par rapport à l'efficacité énergétique et l'optimisation des systèmes qu'on rajoute, que ce soit au niveau chauffage, au climat, etc. Souvent, on oublie qu'il faut rajouter d'autres matériaux isolants qui doivent être aussi durables. On ne peut pas concevoir une architecture durable si ces paramètres ne sont pas respectés. Et souvent, on importe une architecture internationale qu'on porte sur un autre lieu. Par exemple, je prends le cas, quand on conçoit au niveau d'Arpio Architecte un bâtiment, à Dakhla ou à Tanger ou à Marrakech, ce n'est pas du tout le même concept, alors qu'on est sur le même pays, dans la même région. Imaginez la différence quand on conçoit un bâtiment international, quand on importe son concept sur un pays africain ou marocain, etc. Et tout de suite, on considère qu'il est durable. Non, ça, c'est pas du tout possible, parce que là, tout de suite, on a changé des lieux, on a changé d'orientation, on a changé d'ensoleillement, on a changé de beaucoup de paramètres. Et souvent, les gens utilisent des matériaux durables qui viennent d'ailleurs. Vous savez, quand on ramène un matériau durable ou isolant qui vient d'Allemagne ou de Chine, ben on a déjà pollué sur la route. Donc, ce n'est pas du tout un matériau durable. Mm-hmm. Pas du tout. C'est comme si vous prenez un lait bio qui vient de France ou d'Allemagne, et il n'est pas du tout bio.
Voilà, et justement, par rapport à ça, vous venez de le souligner, en parlant de matériel durable. Aujourd'hui, quels sont les matériaux les plus durables en architecture?
Vous savez très bien que pour avoir un matériau durable, il faut savoir comment on l'a fabriqué. Donc, je peux prendre un exemple très simple que tout le monde connaît autour de nous, c'est la brique. Mmh. La brique rouge, vous avez par exemple, il y a la brique rouge cuite, il y a la brique rouge crue. Par exemple, la brique rouge, ça nécessite entre 1200 et 1600 degrés pour pouvoir la fabriquer, la cuire. Donc, au Maroc, sachant qu'on est déjà, c'est-à-dire que toute l'énergie qu'on utilise au Maroc, elle est, je dirais, autour de 35%. L'énergie qu'on utilise au Maroc, elle est à base de charbon en grande partie. Donc, imaginez la brique que vous fabriquez à 1200, 1600 degrés, ce que ça a coûté d'abord par rapport à la brique crue qu'on peut fabriquer à l'air libre. Mais c'est une chose qu'on ne peut pas fabriquer dans un autre monde parce qu'il faut qu'il y ait de l'ensoleillement et aussi de la ventilation pour pouvoir utiliser. Mais n'oublions pas que chaque brique, elle a ses propres caractères. On ne peut pas dire que la brique crue elle est meilleure que la brique cuite, loin de là, au contraire. Mais les briques ne suffisent pas parce que vous savez très bien que pour pouvoir isoler un bâtiment, et on a besoin de matériaux comme un isolant, je dirais, on peut prendre les isolants à base de laine de roche, laine de verre. On peut prendre très bien d'autres matériaux, malheureusement, qui ne sont pas utilisés au Maroc, à base de chute de textile. Bon, ça, c'est des matériaux, malheureusement, qu'on n'a pas encore utilisés. Il y a le chanvre qui reste un très bon isolant, mais pour l'instant, c'est une industrie qui n'a pas encore démarré au Maroc, qui est très demandée dans le monde entier, mais je crois que ça va venir d'après mes informations. Mmh. Et, bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter? C'est vrai qu'on peut rajouter d'autres matériaux de l'extérieur qui peuvent isoler, parce que le meilleur moyen pour isoler un bâtiment, c'est pas seulement de mettre un isolant entre deux murs, mais de pouvoir empêcher le soleil de rentrer à l'intérieur. Par exemple, je vous donne un exemple très bête, c'est les arbres caducs. Vous savez que les arbres caducs, pour ceux qui le savent peut-être pas spécialement, c'est des arbres qui perdent leurs feuillage en hiver et pas en été. Donc, ça nous protège l'été et ça permet de laisser passer l'ensoleillement l'hiver. Mais ça, c'est un produit naturellement qui existe autour de nous qu'on n'utilise pas souvent. Par exemple, en été, je vois autour de moi beaucoup de façades rideaux. Bon, c'est une conception un peu, je dirais, internationale, malheureusement, qui ne s'adapte pas à notre pays, sauf si l'orientation le permet. Et là, on peut très bien utiliser d'autres isolants extérieurs, comme les brise-soleil. Mais si vous utilisez des brise-soleil à base d'aluminium, ben, c'est des produits qui viennent d'ailleurs, qui sont pas recyclés, qu'on peut pas utiliser d'une manière durable. Vous avez aussi les principes de la géothermie, qu'on n'utilise pas souvent. Bon, là, la géothermie, ça permet d'utiliser la chaleur du sol en été et en hiver. Nous avons aussi d'autres matériaux ou d'autres concepts comme les puits canadiens qui permettent, je dirais, une certaine utilisation aussi du sol Donc, je ne sais pas. Bon, mais il y a tellement de, tellement de produits. Mais je dirais, le plus important, c'est de pouvoir marier tous ces produits et ces concepts, mais d'une manière intelligente à la base. Parce que celui qui vient à la fin et de mettre des panneaux photovoltaïques sur un toit, croyant qu'il a déjà réglé le problème, je crois que là, c'est comme si on met un chapeau sur sa tête en étant en maillot de bain et croire qu'on on va avoir chaud. Pas du tout. Ça, c'est, ça, c'est une, malheureusement, c'est une mauvaise pratique qu'on est en train de d'utiliser autour de nous et qui permet d'accompagner. Mais ce n'est pas ça la solution.
Autour de nous, nous allons y revenir tout à l'heure, mais avant aujourd'hui encore, quel autre système ou technologie contribue à la durabilité en architecture ?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une fois qu'on a, c'est-à-dire une fois qu'on est, on a démarré sur une bonne conception intelligente, bien sûr, on peut accompagner un bâtiment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut parler de la récupération de pluie. Par exemple, nous, c'est-à-dire nous, à notre niveau, on est des techniciens et on est obligé d'être pratique et d'utiliser les matériaux ou les produits qu'on arrive à avoir et qui permettent quand même de rentrer dans un certain budget pour le client et en même temps lui permet de faire des économies d'énergie dans l'ensemble du bâtiment. Donc nous, on est presque dans l'économie circulaire. Donc on peut utiliser par exemple sur le lycée Descartes à Rabat, à notre niveau, on a le projet nous a appris qu'on peut utiliser beaucoup de matériaux sur place. Donc, il y avait des bâtiments anciens qu'on a réutilisés en matériaux. Donc, on a fait un peu d'économie circulaire. On a récupéré la pierre qui date de, je dirais, de 1960 et on l'a adaptée à certains endroits du bâtiment. On a récupéré l'eau de pluie parce que là, à Rabat, par exemple, il pleuvait un certain temps beaucoup. Donc, on a réussi aussi à mettre des toits végétalisés donc qui permettent de pouvoir isoler le bâtiment d'une manière naturelle. Et on a même le choix des plantes. On les a utilisées pour avoir des paysages résilients qui ne nécessitent pas beaucoup d'arrosage et d'eau pour ça. Mais il y a aussi, je dirais, les systèmes, il y a des systèmes intelligents comme les PAC géothermiques. Les PAC, c'est des machines pour pouvoir isoler, chauffer et climatiser, les bâtiments, mais qui restent, pas très énergivores en matière de consommation. Il y a aussi, comme je l'ai précisé tout à l'heure, la laine de roche ou la laine de verre, qui reste quand même des produits qui n'ont pas une grande, durabilité pour leur cycle de. Mais souvent, ce qu'il faut faire, c'est que chaque fois qu'on utilise un matériau sur un projet, il faut regarder son bilan carbone. Et chaque matériau, il a son bilan pour connaître un peu ce qu'il a consommé avant d'être produit. Ça, c'est un jeu que je conseille à mes confrères de faire pour pouvoir, pour pouvoir être sûr d'utiliser le matériau qu'il faut.
Et aujourd'hui, M. Berada, on peut contextualiser la situation par rapport également aux maisons durables. Qu'en est-il aujourd'hui de l'évolution de ces maisons durables en Afrique, de manière générale, mais aussi de manière particulière au niveau du Royaume du Maroc ?
Vous savez, M. Tunkara, il y a un système qu'on oublie parfois, c'est que pour pouvoir faire des projets durables ou des maisons durables, il faut avoir aussi des villes et des quartiers durables. Parce que ça ne sert à rien d'être le seul, d'avoir une maison durable dans un quartier, dont les autres bâtiments, les autres bâtisses ne sont pas du tout durables. Parce que il faut que tout le monde ait sa part de durabilité et son devoir de respecter ça. Et par exemple, nous, dans le cadre d'un concours avec l'AMRAN, on leur a proposé de travailler le transfert d'énergie. Je m'explique. Par exemple, actuellement, dans nos villes, on est depuis toujours, c'est un vieux système qu'on utilisait pour les villes, c'est les zonings. Et c'est ça qui provoque souvent les déplacements, Quand je dis zoning, c'est-à-dire que vous avez un quartier où vous avez du logement, un quartier où vous avez des bureaux, un quartier où vous avez de l'industrie ou du commerce. Donc automatiquement, quand on se réveille le matin, on prend sa voiture ou le moyen de transport pour aller vers son lieu de travail. Automatiquement, on pollue à travers sa mobilité, mais ça, c'est un système qu'il faut absolument revoir pour nos régions, pour nos villes. Et quand on voit un peu dans les médinas, les anciens médinas, que ce soit en Afrique ou au Maroc, vous avez les lieux de travail, c'est presque les lieux d'habitation des gens, et les gens mettent moins de temps. D'ailleurs, maintenant, il y a la logique du 15 minutes pour pouvoir partir d'un lieu à un autre. Et nous, on a essayé de transformer ça en réalité par rapport à ce concours. On a proposé un quartier à Oasis City. On a proposé un quartier où on a un peu mélangé les fonctions. D'abord, pour réduire la mobilité des utilisateurs. Et deuxièmement, ça nous permet de faire un transfert de chaleur et transfert d'énergie entre les différentes parties du quartier. Par exemple, quand vous quittez votre lieu de travail le soir, souvent les bureaux sont chauffés. Mais on garde ce chauffage pendant presque une heure et demie, deux heures, pour rien. Et quand on arrive chez soi, on allume encore le chauffage ou la clim, ça dépend de la période. Donc automatiquement, vous recommencez à chauffer ou à climatiser. Alors que nous, on veut absolument réutiliser cette énergie perdue, je dirais, entre les différentes zonings, pour pouvoir faire un transfert d'énergie dans le même quartier. Vous voyez qu'on peut même faire de la recherche dans ce domaine et pouvoir en faire bénéficier nos villes et nos quartiers en Afrique et au Maroc en particulier. Donc c'est ça. C'est-à-dire, à notre niveau d'architecte, on peut très bien aller vers la recherche et de pouvoir proposer au pouvoir public qui gère la majorité de nos villes et de nos quartiers de réfléchir ensemble pour réduire la facture énergétique et aussi pour rendre, je dirais, nos quartiers beaucoup plus agréables. Parce que finalement, c'est quoi le rôle d'un architecte ou d'une gouvernance, c'est de créer le bien-être des utilisateurs dans leur quartier, dans leur ville. C'est ça ce qui nous intéresse.
Merci encore, ça nous intéresse et on en parle toujours dans cette émission sur la durabilité. Mohamed Berada, merci encore à vous. Je rappelle que vous êtes architecte et fondateur de Arpio Architect, par ailleurs professeur d'université à Montréal et à Casablanca.
Je vous remercie, monsieur Tchonkora, pour l'intervention.
Merci encore à vous, chers amis, pour la durabilité, de votre confiance. C'était encore votre émission sur la durabilité avec Ababacar Tunkara. Plaisir.